Chapitre 7, dans lequel le lecteur apprend la position de Glaucus, l'amitié mise à l'épreuve, l'inimitié adoucie, l'amour toujours le même parce que l'amour est aveugle. La nuit était déjà avancée, et les endroits où les gais habitants de Pompéi avaient l'habitude de se réunir étaient encore remplis par la foule. On aurait pu observer sur le visage des différents oisifs une expression plus sérieuse que d'habitude. On s'entretenait par groupes nombreux, comme si l'on eût cherché à rendre moins vive, par cet échange, l'anxiété moitié pénible, moitié agréable, qui résultait du sujet de la conversation. C'était un sujet de vie et de mort. Un jeune homme passa vivement à côté du gracieux portique du temple de la fortune, si vivement même qu'il heurta avec assez de force la rotondité majestueuse du respectable Diomède qui se retirait à sa maison du faubourg. Hola ! Cria le marchand en reprenant avec peine son équilibre. Est-ce que vous n'y voyez pas clair ou pensez-vous que je suis insensible ? Par Jupiter, vous avez failli chasser de mon corps le souffle divin qui l'anime. Un autre choc de cette force, et mon âme irait parmi les ombres. Oh, Diomède, est-ce vous ? Oh, pardonnez à ma maladresse. J'étais absorbé dans la méditation des vicissitudes de la fortune. Notre pauvre ami Glaucus, ah, qui l'aurait pensé ? Bon, je vous excuse, mais dites-moi, Claudius, serait-il réellement renvoyé devant le Sénat ? Oui, on dit que son crime est d'une nature extraordinaire, que le Sénat seul peut le juger, de sorte que les lecteurs doivent le poursuivre formellement. Il a donc été accusé publiquement ? Assurément. Où êtes-vous donc allé pour n'en rien savoir ? Je reviens de Néapolis, où je suis allé pour affaire le lendemain même de son crime. Quelle chose affreuse! Quand je songe qu'il était chez moi le soir même! On ne peut douter de sa culpabilité, dit Claudius en haussant les épaules. Et comme ses crimes prennent le pas sur les pécanies sans importance, on prononcera la séance avant les jeux. Les jeux, ô Dieu tout-puissant, répliqua Diomède. Est-ce qu'on le condamnerait aux bêtes, lui, si jeune, si riche ? Oui, mais ce n'est qu'un grec. S'il était romain, ce serait mille fois plus fâcheux. On peut supporter ces étrangers dans la prospérité, mais dans l'adversité, nous ne devons pas oublier que ce ne sont en réalité que des esclaves. Cependant, nous autres, qui appartenons aux classes supérieures, nous avons le cœur facile à attendrir. Et si son sort dépendait de nous, il s'en tirerait mieux. Car entre nous, hein, qu'est-ce qu'un prêtre d'Isis ? Qu'est-ce qu'Isis elle-même ? Mais le vulgaire est superstitieux. On demande le sort du sacrilège. Il est dangereux de ne pas accorder quelque chose à l'opinion publique. Et le blasphémateur, là, le chrétien, le nazaréen, enfin l'autre, enfin, de quelque nom que vous l'appeliez ? « Oh, le pauvre chien, s'il veut sacrifier à Cybèle ou à Isis, on lui pardonnera. Sinon, il appartient au tigre, du moins je le suppose. Mais le procès en décidera. » Nous parlons cependant que les urnes sont encore vides et le grec peut encore échapper au terrible cul de son alphabet, mais c'est assez sur ce sujet. Comment va la belle Julia ? « Bien, j'imagine. Rappelez-moi son souvenir, je vous prie. Écoutez un peu cette porte grise sur ses gonds. C'est celle de la maison du prêteur. Qui en sort ? Par Pollux, c'est l'Égyptien ? Et quelle affaire peut-il avoir avec notre magistrat ? Ou quelques conférences à propos du meurtrier, sans aucun doute, répliqua Diomède. Mais quel a pu être le motif du crime ? Glaucus allait épouser la sœur du prêtre. Oui, quelques personnes prétendent qu'Apaïsides s'opposait à cette alliance. Il y a eu une querelle subite. Glaucus était évidemment ivre, il était même tellement privé de raison qu'il s'est laissé pendre sans résistance. Et l'on m'a assuré qu'il est encore dans le délire, délire aspiré par le vin, la terreur, le remords, les furies, ou les bacchanales, je ne puis pas le dire. Pauvre garçon, a-t-il un bon avocat? Ah, le meilleur, Caius Pollio, un garçon de talent. Pollio engagé à prix d'argent tous les patriciens pauvres, tous les prodigues bien-nés de Pompéi, à revêtir leurs vieux habits râpés et à venir protester de leur amitié en faveur de Glaucus, qui ne leur aurait pas adressé la parole pour un empire. Je dois lui rendre cette justice, car c'était un homme du grand monde dans le choix de ses connaissances. Ces gens-là vont tâcher d'attendrir les citoyens sur son sort, mais ils ne le pourront pas. Isis est très populaire en ce moment. À propos, oui, j'ai quelques marchandises d'Alexandrie. On doit protéger Isis. Oui, adieu donc, mon digne ami. Nous nous reverrons bientôt. Sinon, nous vous ferons un petit pari à l'amphithéâtre. Tous mes calculs ont été renversés par cette fâcheuse aventure de Glaucus. Il avait parié pour Lydon, le gladiateur. Il faudra que je remplisse mes tablettes autre part. Allez, va aller! Claudius, laissant Diomède, moins agile que lui, regagner sa maison de campagne, continua son chemin en fredonnant un air grec et en parfumant la nuit des senteurs qui s'exhalaient de ses vêtements blancs comme la neige et de ses cheveux flottants. Si Glaucus, pensait-il, est la proie du lion, Julia n'aura rien de mieux à faire que de m'aimer. Je deviendrai à coup sûr son préféré, et ainsi, je le suppose, je puis arriver à l'épouser. Mais par les dieux, les doux signes commencent à me manquer. Les hommes me regardent au doigt d'un air soupçonneux lorsque je remue le cornet. C'est infernal, Sallust, leur insinue que je triche. Et si l'on venait à découvrir que mes dés d'ivoire sont pipés, adieu les bons soupers, les billets parfumés, Claudius serait perdu. Il vaut mieux me marier pendant qu'il en est temps encore, renoncer au jeu et pousser ma fortune, ou plutôt celle de la belle Julia, à la cour impériale. Se livrant ainsi au rêve de son ambition, si l'on peut donner ce nom au projet de Claudius, le joueur se sentit arrêté par quelqu'un. Il se retourna et reconnut le sombre Arbacès. Salut, noble Claudius. Pardonnez-moi d'interrompre vos pensées. Veuillez m'indiquer, je vous prie, la maison de Sallust. Elle est à quelques pas d'ici, sage Arbacès. Mais Sallust reçoit-il ce soir? N'en sais rien, répondit l'Égyptien. Je ne suis pas de ceux qu'il aimerait probablement avoir pour compagnon, mais vous savez que c'est dans sa maison qu'on a porté Glaucus, le meurtrier. Ah, ce bon cœur d'épicurien, il croit à l'innocence du grec. Vous me rappelez en effet qu'il a cautionné et que, jusqu'au procès, il est responsable de sa comparution. La maison de Sallust vaut mieux en effet qu'une prison, surtout que ce misérable trou de forum. Mais pourquoi vous cherchez-vous, Glaucus? Pourquoi? Bon, si nous pouvions, noble Claudius, lui épargner l'exécution, ce serait fort heureux. La condamnation d'un homme riche est un coup porté à la société elle-même. Je voudrais causer avec lui, car on assure qu'il a recouvré ses sens, afin de bien connaître les motifs de son crime. Il y aura peut-être des circonstances atténuantes à faire valoir en sa faveur. Vous êtes bienveillant, Arbacès. La bienveillance est le devoir de celui qui aspire à la sagesse, répliqua l'Égyptien avec modestie. Quel chemin donc conduit à la demeure de Sallust? Je vais vous la montrer, répondit Claudius, si vous voulez bien me permettre de vous accompagner quelques instants. Mais dites-moi, que devient la pauvre fille qui allait épouser l'Athénien, la sœur du prêtre assassiné ? Oh, hélas, elle a presque perdu la raison. Quelquefois, elle exhale des imprécations contre le meurtrier, puis elle s'interrompt tout à coup, elle crie. Mais pourquoi le maudit, oh mon frère, Glaucus n'est pas ton assassin, je ne le croirai jamais. Alors elle recommence, elle s'interrompt de nouveau. Elle murmure avec effroi. Mais si c'était lui, pourtant. Malheureuse Ionée. Mais il est heureux pour elle que les devoirs solennels que la religion ordonne de rendre aux morts aient gravement détourné son attention d'elle-même et de Glaucus. Dans la douleur où elle est plongée, elle semble à peine se souvenir que Glaucus est arrêté et à la veille d'un procès. Lorsque les honneurs funèbres auront été rendus à Paécides, son appréhension reviendra, et alors je crains beaucoup que ses amis ne soient révoltés de l'avoir volé au secours du meurtrier de son frère. Il faut prévenir un tel scandale. Mais je pense que j'ai pris quelques précautions utiles à cet égard. Je suis son tuteur et j'ai obtenu la permission de l'emmener chez moi après les funérailles de Paécides. Là, s'il plaît au Dieu, elle sera en sûreté. Vous avez bien fait, sage Arbacès. Mais voici la maison de Salluste. Que les dieux vous gardent. Ah, un mot encore, Arbacès. Pourquoi paraissez-vous en général si sombre et si insociable? On assure que vous savez être gai comme un autre à l'occasion. Laissez-moi vous initier au plaisir de Pompéi. Je me flatte que personne ne les connaît mieux que moi. Je vous remercie, noble Clodius. Sous vos auspices, je pourrais en effet me risquer à faire des bâtons, mais à mon âge, je serais un élève assez maladroit. Vous ne craignez rien, j'ai converti des septuagénaires. Les gens riches n'ont pas de vieillesse. Vous me flattez, plus tard, je vous ferai souvenir de votre promesse. Marcus Glotius sera à vos ordres en tout temps. Ainsi donc, allez. Je ne suis pas, se dit l'Égyptien quand Clodius l'eut quitté, je ne suis pas un homme de sang. Je sauverai volontiers ce grec, si en avouant le crime, il consent à perdre Ionée pour toujours, et à me délivrer de la crainte d'être découvert, et je puis le sauver en persuadant à Julia de reconnaître hautement qu'elle lui a donné le philtre. Ce sera son excuse. Mais s'il ne confesse pas le crime, pourquoi condamner Julia à cette honte, puisqu'il faut qu'il meure? Car il le faut, d'abord pour ne pas demeurer mon rival parmi les vivants, et puis pour expier mon crime auprès des morts. Mais avouera-t-il, ne peut-on le convaincre qu'il a porté le coup dans un accès de délire? Ce serait pour moi une sûreté plus grande que sa mort. Allons, tentons l'expérience. Arbacès, en se glissant le long d'une rue étroite, s'était approché de la maison de Salluste. Il vit une figure sombre enveloppée dans un manteau, couchée sur le seuil de la porte. Cette forme était si immobile et les contours en étaient si vagues que tout autre qu'Arbacès aurait cru, dans une frayeur superstitieuse, rencontrer une de ces sombres lémures qui, entre tous autres lieux, préfèrent, pour revenir les hanter, ce qu'elles ont habité autrefois. Mais de tels songes n'arrêtaient pas Arbacès. « Lève-toi, » dit-il en touchant le corps du pied, « tu obstrues le chemin. »«
Ah, qui es-tu ? » cria une voix aiguë.
Et la forme se dressa, un rayon de lune éclaira le pâle visage de Nydia la Thessalienne.
« Qui es-tu ? » répéta-t-elle, « je connais le son de ta voix. »
« Jeune aveugle, que fais-tu à cette porte si tard ? Est-ce convenable à ton sexe et à ton âge ? À la maison, jeune fille ! »
« Je te connais, » reprit Nydia à voix basse. « Tu es Arbacès l'Égyptien. » Alors, comme entraînée par une soudaine impulsion, elle se jeta à ses pieds, joignit les mains et s'écria d'un ton éperdu et passionné: « Homme redoutable et puissant, sauvez-le, sauvez-le, il n'est pas coupable. C'est moi, il est dans cette maison, malade, mourant. Et moi, je suis la cause détestable de tout. Ils ne veulent pas me laisser pénétrer jusqu'à lui. Ils repoussent la pauvre jeune fille aveugle. Oh, guérissez-le. Vous devez connaître quelque herbe, quelque talisman, quelque contre-filtre, car c'est le breuvage qui a excité cette frénésie. »
Tais-toi, enfant, je sais tout. Tu n'as pas oublié que j'ai accompagné Julia à la caverne de la saga. Sa main lui a renversé la potion. Mais sa réputation exige le silence. Ne te fais pas de reproches, qui doit être sera. Je vais voir le criminel, il peut encore être sauvé. Allez, adieu. Narbassès se débarrassa alors de l'étreinte de la Thessalienne désespérée et frappa fortement à la porte. Peu d'instants après, les pesantes barres de fer furent enlevées, et le portier, entr'ouvrant la porte, demanda qui était là. Narbassès, qui désire parler à Salluste pour une importante affaire au sujet de Glaucus. Je viens de chez le prêteur. » Le portier, moitié bâillant, moitié gémissant, fit entrer le majestueux Égyptien. Nydias s'élança sur ses pas.
« Comment va-t-il ? » s'écria-t-elle. « Dites-le-moi, dites-le-moi. »
« Oh, c'est encore toi, folle enfant, tu devrais rougir. Mais on dit qu'il est revenu à lui. »«
Oh, les dieux soient loués. Et vous ne voulez pas m'admettre en sa présence, je vous en prie. » »«
T'admettre, certainement, non. Je ferais un grand tort à mes épaules si je laissais passer des créatures de ton espèce. Allez, va-t'en. » La porte se referma, et Nydia, avec un profond soupir, retomba sur le seuil et, s'enveloppant de nouveau de son manteau, reprit sa douloureuse veillée. Pendant ce temps-là, Arbacès était déjà arrivé au triclinium, où Salluste était en train de souper tardivement avec son affranchi favori. « Quoi, Arbacès, à cette heure, accepter cette coupe ?» Non, non, salut, je te remercie de cette offre hospitalière. Ce n'est pas le plaisir qui m'amène, c'est pour l'affaire que je viens te troubler. Comment se porte ton prisonnier? On dit qu'il a retrouvé sa raison? Hélas, c'est vrai, répondit Salluste en essuyant une larme, car la bonté s'alliait chez lui à la dissipation. Mais ses nerfs et tout son corps ont reçu de telles atteintes que je reconnais à peine le brillant, joyeux compagnon de mes plaisirs. Ce qu'il a de plus étrange, c'est qu'il lui est impossible d'expliquer la frénésie soudaine dont il a été saisi. Il n'a qu'un vague souvenir de ce qui s'est passé, et en dépit de ton témoignage, sage égyptien, il soutient solennellement qu'il est innocent de la mort d'Apaïsides. Salluste, répondit gravement Arbacès, il y a dans l'affaire de ton ami bien des circonstances qui méritent une indulgence particulière. Et si nous pouvons obtenir de sa bouche l'aveu et le motif de son crime, on pourrait espérer la clémence du Sénat. Car le Sénat, tu le sais, possède le droit de mitiger la loi ou de la rendre plus sévère. C'est pour cela que j'ai conféré avec l'autorité la plus élevée de la ville et obtenu la permission de m'entretenir cette nuit avec l'Athénien. Tu n'ignores pas que le procès s'engage demain. Eh bien, dit Salluste, tu seras vraiment digne de ton nom oriental et de ta renommée si tu peux tirer de lui quelque chose. Tu peux essayer. Pauvre Glaucus, lui qui était doué d'un si bon appétit, il ne mange plus rien. L'aimable épicurien s'attendrit de nouveau à cette pensée. Il soupira et ordonna à ses esclaves de remplir sa coupe. « La nuit s'avance, dit l'Égyptien, permets que je voie ton hôte maintenant. » Salluste fit un signe d'assentiment et le conduisit à une petite chambre gardée au dehors par deux esclaves assoupis. La porte s'ouvrit, et à la requête d'Arbacès, Salluste se retira, laissant l'Égyptien seul avec Glaucus. Un de ces hauts et gracieux candélabres qui étaient communs alors supportait une petite lampe qui brûlait près d'un lit étroit et dont les rayons éclairaient d'une lumière pâle la figure de l'Athénien. Arbacès fut ému de voir à quel point il était changé. Ses brillantes couleurs s'étaient évanouies, ses joues étaient creusées, ses lèvres étaient contractées et décolorées. La lutte avait été terrible entre la raison et la folie, la vie et la mort. La jeunesse, la force de Glaucus avaient triomphé, mais la fraîcheur du sang, la vivacité de l'âme, la vie de la vie, ce qui en fait la gloire et le charme, étaient perdus à jamais. L'Égyptien s'assit tranquillement près du lit. Glaucus demeura muet, sans s'apercevoir de sa présence. Enfin, après une longue pause, Arbacès parla ainsi. « Glaucus, nous avons été ennemis. Je viens seul vers toi dans le silence de la nuit, comme un ami, peut-être comme un sauveur. » De même que le coursier tressaille d'horreur en reconnaissant la trace d'un tigre, de même le malade se souleva hors d'haleine, alarmé, palpitant, à la voix inattendue, à l'apparition soudaine de son ennemi. Leurs yeux se rencontrèrent, et ni l'un ni l'autre, pendant quelques instants, n'eut le pouvoir de détourner son regard. La rougeur couvrit à plusieurs reprises la figure de l'Athénien et la joue bronzée de l'Égyptien prit une teinte encore plus pâle. À la fin, Glaucus, se détournant avec un faible soupir, passa la main sur son front, se laissa retomber sur son lit et murmura « Est-ce que je rêve encore ?»« Non, Glaucus, tu es éveillé. Par cette main droite et par la tête de mon père, tu vois un homme qui peut te sauver, écoute. Je sais ce que tu as fait, mais je sais aussi quelle est ton excuse. » Et toi-même, tu l'ignores. Tu as commis un meurtre, c'est vrai, un sacrilège même. Ne frémis pas, sois calme. Mes yeux en ont été témoins, mais je puis te sauver. Je puis prouver que tu n'avais pas ta raison, que tu n'as pas agi en homme maître de ses idées et de ses actions. Mais pour que je te sauve, il faut que tu avoues ton crime. Signe ce papier, reconnais que ta main a donné la mort à Apaïsides, et tu éviteras l'urne fatale. Qu'est-ce que j'entends? Meurtre à Apaïsides? Mais ne l'ai-je pas trouvé étendu par terre, le corps sanglant, déjà mort? Et prétends-tu me prouver que j'ai commis ce crime? Mais homme, tu mens, va-t'en! « Ne t'emporte pas, Glaucus, ne sois pas si vif. Le fait est prouvé. Tu es excusable de ne pas te rappeler un acte commis dans le délire, dont ta raison frémirait peut-être d'avoir été témoin. Mais laisse-moi essayer de rafraîchir ta mémoire fatiguée et épuisée. Tu sais bien que tu marchais à côté du prêtre, vous disputant l'un l'autre à propos de sa sœur. » Tu sais qu'il était intolérant, à moitié nazaréen, qui cherchait à te convertir et que vous vous querellâtes. Il calomniait ta manière de vivre et jurait qu'il ne souffrirait pas que sa sœur t'épousât. Alors, dans ta colère et dans ta frénésie, tu lui as porté un coup fatal. Voyons, tu dois te souvenir de cela. Lis ce papier, il en contient la déclaration. Signe-le, et tu es sauvé. « Barbare, donne-moi cet écrit mensonger afin que je le déchire. Moi, l'assassin du frère Dionée, moi,
que j'avoue avoir enlevé un cheveu d'une tête qu'elle aimait, que je périsse plutôt 1000 fois.
Prends garde, dit Arbacès d'une voix basse et sifflante. Il n'y a qu'une alternative. Ton aveu et ta signature, ou l'amphithéâtre et la dent du lion. L'œil de l'Égyptien, fixé sur le patient, remarqua avec joie les signes d'une vive émotion chez Glaucus à ces paroles. Un frisson parcourut le corps de l'Athénien. Sa lèvre trembla et une expression de surprise se fit voir sur son front et dans son regard.
« Grand Dieu, dit-il à voix basse, quel changement ! Il n'y a qu'un jour, ce me semble, la vie me souriait au milieu des roses. Ionée allait être à moi. La santé, la jeunesse, l'amour me prodiguaient leurs trésors. Maintenant, la peine, la folie, la honte, la mort. Et pourquoi ? Mais qu'ai-je fait ? Oh, je suis encore en délire.
Signe et sois sauvé, reprit l'Égyptien d'une voix douce.
Jamais, tentateur, s'écria Glaucus en proie à un nouvel accès de rage. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas l'âme superbe d'un Athénien. La face de la mort que tu m'as présentée a pu m'effrayer un moment, mais la crainte est passée. Je ne crains que le déshonneur qui est éternel. Quel homme voudrait avilir son nom pour sauver sa vie ? Quel homme échangerait une conscience pure pour des jours flétris ? Qui voudrait, par un mensonge, se vouer à la honte et mourir noirci aux yeux de la renommée d'Ionée ? Si, pour conserver quelques jours d'une vie souillée, un homme avait cette bassesse, ne pense pas, Égyptien barbare, rencontrer cet homme chez celui qui a foulé le même sol que Harmodius, qui a respiré le même air que Socrate. Va, laisse-moi vivre sans reproche, ou périr sans crainte.
Songe-y bien, ce sont les griffes du lion que tu affrontes. Les clameurs d'une populace grossière, le regard de la foule fixé sur ton agonie et sur tes membres déchirés, ton nom dégradé et ton corps sans sépulture, la honte même que tu cherches à éviter, s'attachant à toi et pour toujours.
Mais tu es en délire, tu es insensé. La honte ne réside pas dans la perte de l'estime des autres. Elle résiste dans la perte de notre propre estime. Mais t'en diras-tu, ta présence me répugne, ta vue me fait mal. Je t'ai toujours haï, je te méprise maintenant.
Je me retire, dit Arbacès. Blessé et exaspéré, mais non sans quelque pitié et quelque admiration pour sa victime. Je me retire. Nous ne nous reverrons plus que 2 fois. L'une au tribunal et l'autre le jour de ta mort. Adieu.
Il se leva lentement, s'entoura de son manteau et quitta la chambre. Il vint retrouver un moment Salluste, dont les yeux rougis indiquaient qu'il avait veillé en compagnie de sa coupe.
« Il n'a toujours pas sa raison, ou il est toujours obstiné, dit-il. Il n'y a plus d'espérance pour lui. »«
Ah, il ne faut pas parler ainsi, répliqua Salluste, qui ne ressentait pas une grande animosité contre l'accusateur de l'Athénien, parce qu'il ne possédait pas une grande austérité de mœurs et qu'il était plus touché du sort de son ami que persuadé de son innocence.
« Il ne faut pas parler ainsi, mon Égyptien. Un si bon buveur ne peut être condamné. C'est une affaire à régler entre Bacchus et Isis.
Oh, »« Nous verrons, » dit l'Égyptien. Les barres de fer furent tirées de nouveau et la porte se rouvrit. Arbacès sortit dans la rue, et la pauvre Nydia se releva encore une fois de sa longue veillée.
« Le sauverez-vous ? » s'écria-t-elle en joignant les mains.
« Enfant, suis-moi, je veux te parler. C'est pour lui que je te le demande.
Mais le sauverez-vous ? »
Aucune réponse ne frappa l'oreille avide de la jeune aveugle.
Arbacès s'était déjà avancé dans la rue. Elle hésita un moment, puis suivit ses pas en silence. « Je dois mettre cette fille en lieu sûr, se dit-il à lui-même, de peur qu'elle ne donne l'éveil sur le filtre. Quant à l'orgueilleuse Julia, elle ne se trahira pas. »
Chapitre 8. Funérailles classiques. Pendant qu'Arbacès prenait toutes ses mesures, le chagrin et la mort étaient dans la maison d'Ionée. C'était le lendemain matin que les funérailles solennelles devaient avoir lieu en l'honneur de la dépouille mortelle d'Apaïsides. Le corps avait été apporté du temple d'Isis chez la plus proche parente du défunt. Ionée avait appris à la fois la mort de son frère et l'accusation portée contre son amant. Le premier transport de douleur qui absorbe l'esprit dans la douleur même, et le silence de ses esclaves qui avaient peur de redoubler sa peine, ne lui avaient pas laissé l'occasion d'apprendre tous les détails du sort de Glaucus. Elle ignorait sa maladie, son délire, le procès qui l'attendait. Elle n'avait appris que l'accusation, qu'elle avait repoussée avec une âme indignée. Dès qu'elle sut qu'Arbacès était l'accusateur, elle fut immédiatement convaincue que l'Égyptien était lui-même le criminel. Mais la grande importance que les anciens attachaient aux cérémonies funèbres d'un parent et les soins nombreux réclamés par ces cérémonies avaient jusqu'à ce moment emprisonné sa douleur et ses convictions dans la chambre où le mort avait été déposé. Hélas, il ne lui avait pas été permis d'accomplir ce tendre et touchant office qui impose aux plus proches parents de recueillir, s'il est possible, le dernier souffle, l'âme fugitive d'un être chéri. Mais il lui appartenait de fermer ses yeux immobiles, ses lèvres muettes, de veiller près de cette argile sacrée qui, baignée avec soin et couverte de précieux parfums, était couché sur un lit d'ivoire et revêtu d'habits pompeux. Il lui appartenait de joncher ce lit de verdure et de fleurs et de renouveler la branche de cyprès devant le seuil de sa porte. Dans ses douloureux devoirs, dans ses lamentations et dans ses prières, Ionée s'oublia elle-même. C'était une des coutumes les plus anciennes de l'Antiquité d'enterrer un jeune homme au point du jour. Car, s'étudiant à offrir les plus douces interprétations de la mort, on se figurait poétiquement que l'aurore qui aimait les jeunes gens les enlevait dans ses bras comme une céleste maîtresse. Et quoique dans cette occasion la fable ne pût s'appliquer au prêtre assassiné, on n'en suivait pas moins l'usage. Les étoiles commençaient à abandonner une à une les cieux, qui prenait une teinte grisâtre et la nuit se retirait lentement devant le jour, lorsqu'un groupe sombre parut immobile à la porte d'Ionée. Des torches longues et minces, rendues plus pâles par la lueur naissante du matin, répandaient leur lumière sur des physionomies diverses, qui avaient toutes néanmoins la même expression solennelle et attentive. Alors s'éleva une lente et triste musique, d'accord avec la cérémonie et dont les sons retentirent à travers les rues solitaires, pendant que des femmes, ces préficae si souvent citées par les poètes romains, chantant en chœur, accompagnaient des paroles suivantes les flûtes tibérines et misiennes. Chant des funérailles. Sur le triste seuil où se penche le morne cyprès dont la branche remplace la fleur des amours, nous voilà. Notre voix t'invite, sombre voyageur au Cocyte, du dernier chemin suit le cours. Des ombres le vapeureux groupe t'attend au palais de la nuit, le noir fleuve emplira ta coupe, le fleuve qu'on passe sans bruit. Dans ces lieux où le sort t'envoie, pour toi ni nuit ni jour de joie, adieu le rire et les plaisirs, Là, tu verras les Danaïdes, titans et ces vautours avides, tantales aux impuissants désirs. Là, Sisyphe roule sa pierre au haut de l'éternel rocher. Viens donc sur la sombre rivière, déjà t'attend le vieux nocher. C'est là, dans ce pâle royaume, qu'il faut descendre, ô cher fantôme. Tu deviens sujet de Pluton. Que notre amitié te protège, nous voulons te faire un cortège digne de ton rang et de ton nom. La torche brille impatiente. Accours, toi qui conduis le deuil. Pluton ne connaît pas l'attente. La mort t'appelle en son cercueil. Quand le chant fut terminé, le groupe se sépara en deux, et le corps d'Apaïsides, placé sur un lit recouvert d'une tenture de pourpre, sortit de la maison les pieds devant. Le designateur ou directeur de la triste cérémonie, accompagné de ses porteurs de torches vêtus de noir, donna le signal et la procession s'avança solennellement. D'abord venaient les musiciens jouant une marche grave. Les sons mélancoliques et peu élevés des instruments étaient interrompus de temps à autre par les éclats des trompettes funéraires. Des pleureurs gagés suivaient les musiciens en chantant leurs chants funèbres. Des voix de femmes étaient mêlées à des voix d'enfants dont l'âge tendre rendait encore plus frappant le contraste de la vie et de la mort, ce qu'on aurait pu comparer à la feuille fraîche et à la feuille flétrie. Mais les acteurs, les bouffons et l'archimime, dont l'office était de représenter le défunt, ces assistants des convois ordinaires, avaient été bannis des funérailles du jeune homme auquel se rattachait de si douloureuses circonstances. Les prêtres d'Isis apparaissaient ensuite avec leurs robes blanches, nu-pieds et tenant des gerbes de blé. On portait devant le corps les images du décédé et celles de ses ancêtres athéniens. Derrière la bière, au milieu de ses femmes, s'avançait la seule parente du mort, la tête nue, les cheveux dénoués et la figure plus pâle que le marbre, mais cependant tranquille et calme, sauf lorsque par moments la musique réveillait dans son cœur quelques tendres souvenirs et la faisait sortir de cette léthargie où la plongeait la douleur. Elle se couvrait alors le visage de ses mains et soupirait à l'insu de la foule. Car son chagrin évitait le bruit, les lamentations à haute voix, les gestes exagérés qui caractérisent ceux dont la douleur est moins sincère. À cette époque, comme à la nôtre, le torrent des profondes tristesses coulait lentement et sans bruit. La procession marcha ainsi à travers les rues, passa la porte de la cité et gagna la place des tombeaux, située loin des murs, et que le voyageur voit encore. Le bûcher funéraire, élevé en forme d'autel et fait de bois de sapin non dépouillé, dans les interstices duquel on avait placé des matières combustibles, se dressait au milieu de sombres cyprès que la poésie a consacré depuis longtemps au tombeau. Dès que la bière eut été placée sur le bûcher, le cortège se sépara et Ionée s'avança vers le lit. Là, elle resta quelques moments immobile et silencieuse devant l'insensible dépouille. Les traits du mort avaient perdu le caractère que leur avait donné une mort violente. La terreur et le doute, la lutte de la passion, le respect de la religion, le combat du passé et du présent, l'espérance et la crainte de l'avenir, tous ces sentiments qui avaient agité et désolé l'âme de ce jeune aspirant à la sainteté, n'avaient laissé aucune trace sur son visage. On n'y voyait plus que la sérénité d'un front impénétrable et d'une bouche muette. Sa sœur le regarda, et la foule ne fit plus entendre le plus léger son. Le silence d'Ionée était à la fois terrible et doux, et lorsqu'elle le rompit, ce fut d'une manière brusque, avec un cri sauvage et passionné,
le cri d'un désespoir longtemps contenu. « Mon frère, mon frère !» s'écria la pauvre orpheline en se jetant sur son lit. « Toi qui n'aurais pas foulé le ver de terre sur ton chemin, quel ennemi pouvais-tu provoquer ? Oh, tout ceci est-il bien vrai ? Éveille, éveille-toi ! Nous avons grandi ensemble et nous voilà séparés. Tu n'es pas mort, tu dors, éveille-toi !»
L'accent de sa voix désolée remua la sympathie des pleureurs à gage qui poussèrent leurs cris, leurs gémissements accoutumés. Ce bruit fit tressaillir Ionée et la rappela à elle-même. Elle jeta autour d'elle un regard timide et confus, comme si elle s'apercevait pour la première fois de la présence de la foule qui l'environnait.
« Ah !» murmura-t-elle avec un frisson, « nous ne sommes donc pas seuls. »
Après un court intervalle, elle se releva et son pâle et beau visage parut calme et sévère. D'une main tremblante et pieuse, elle ouvrit les yeux d'Apaïsides. Mais quand cet œil terne où ne rayonnait plus l'amour de la vie rencontra le sien, elle jeta un cri comme si elle avait vu un spectre. Se remettant ensuite, elle baisa à plusieurs reprises les yeux, la bouche, le front du défunt et reçut des mains du grand prêtre d'Isis une torche funéraire qu'elle agita en quelque sorte sans avoir la conscience de son action. Les éclats soudains de la musique et les chants des pleureuses annoncèrent la naissance de la flamme purifiante. Hymne au vent. Ô vent, sur ton lit de nuages, réveille-toi. Vent doux et cher, accours soudain sur nos rivages, fils de l'Eurus ou de l'Austère. Fusses-tu l'enfant de Borée que la mer du Nord va courir, ton haleine sera sacrée comme l'haleine du Zéphyr. Nos encensoirs, sur ton passage, répondront des parfums jaloux. Jamais Tempé dans son bocage n'a pu t'en offrir de plus doux. Tu croiras voir Chypre sourire au feu d'un soleil indulgent. Le nard et la casse et la myrrhe vont embaumer tes pieds d'argent. Source de tout ce qui respire, air éternel, nous t'attendons. Reprends, remporte en ton empire cette âme humaine, un de tes dons. Monte, monte, brillante flamme, brûle ce corps, il est à toi. Mais à l'air appartient notre âme, car chaque élément a sa loi. Il vient, le vent s'avance. Il murmure autour du bûcher, sur ses ailes il se balance, à la flamme il court s'attacher. Vent, feu, luttez, luttez ensemble, comme des serpents furieux. Séparez ce qui vous ressemble, lutte de la terre et des cieux. Que l'encens remplisse l'espace, faites entendre un son plus doux. Sur cette terre où l'homme passe, son âme habite une prison. Ainsi, te voilà délivré de l'esclavage où tu dormais. Grâce au bûcher, âme épurée, te voilà libre pour jamais. Âme remontée à ta source, désormais pour toi, plus de fer. Des vents, tu peux suivre la course sur le vaste océan désert. Dans l'Élysée, au frais ombrage, tu vas donc errer à ton tour. Quand pourrons-nous, auprès des sages, te rejoindre en ce beau séjour ? Alors s'éleva très haut dans les airs la flamme odoriférante en se mêlant aux premières lueurs de l'aurore. Elle jeta un lumineux éclat à travers les obscurs cyprès. Elle s'élança au-dessus des murs de la cité voisine. Et le pêcheur matinal tressaillit en voyant une couleur rougeâtre se répandre sur la mer endormie. Mais Ionée s'était assise à part et seule, et appuyant sa figure sur ses mains,
Elle ne voyait pas la flamme, elle n'entendait pas les lamentations de la musique. Elle n'éprouvait qu'un seul sentiment, celui de son isolement. Elle n'avait pas encore eu le temps d'arriver à cette consolante idée qui nous persuade que nous ne restons pas seuls et que les morts peuvent être avec nous. La brise aida rapidement à l'effet de combustible placé dans le bûcher. Peu à peu, la flamme baissa, diminua, s'obscurcit, et puis s'éteignit lentement, après quelques lueurs brusques et inégales, emblèmes de la vie elle-même. Où tout était, quelques moments auparavant, lumière et mouvement, il ne restait plus que des cendres brûlantes. Les assistants éteignirent les dernières étincelles et recueillirent les cendres. Les restes du défunt, trempés dans les vins les plus rares et les parfums les plus précieux, furent enfermés dans une urne d'argent que l'on inséra soigneusement dans l'un des tombeaux qui bordaient la route et on déposa en même temps la petite fiole pleine de larmes et la pièce de monnaie que la poésie consacrait encore au sombre nocher. Le tombeau se couvrit de fleurs et de guirlandes. Les encensoirs fumèrent sur l'autel et de nombreuses lampes furent allumées autour de la tombe. Le lendemain, lorsque le prêtre revint y apporter de nouvelles offrandes, il s'aperçut qu'aux reliques de la superstition païenne, une main inconnue avait ajouté une branche verte de palmier. Il ne l'ôta pas parce qu'il ignorait que ce fut l'emblème funéraire du christianisme. Les cérémonies que nous venons de décrire étant terminées, une des praeficae aspergea trois fois les assistants avec la branche purifiante de laurier en prononçant ce mot « Illicet, vous pouvez vous retirer » et tout fut fini. Le cortège, avant de s'éloigner, prononça encore à plusieurs reprises et en pleurant, se touchant à Dieu. « Salve aeternum !» Et pendant qu'Ionée était encore là, commença le chant suivant qui accompagnait le départ. « Salve aeternum !» Arme fugitive, urne sainte pour la dernière fois à Dieu. Vous avez reçu notre plainte et nous allons quitter ce lieu. Nous aussi, les rapides heures nous conduiront au sombre bord. Nous verrons les tristes demeures. Tombe, adieu. Salut, jeune mort. Illicet. Notre cœur fidèle en un tombeau vivant aussi emporte ton âme éternelle avec les cendres que voici. Le deuil dans le cœur se célèbre dans l'eau sustrale et sans le feu. La mémoire au banquet funèbre prononce en pleurs le triste adieu. Illicet. Sur la rive sombre, tu te souviendras de nos pleurs. Nos gémissements, ô jeune ombre, sauront consoler tes douleurs. Si l'amour est court dans la vie, il est éternel dans la mort. La rose est promptement ravie, le cyprès reste vert et fort.